vous, Matisse. Vous êtes préhistorienne et paléontologue. Aujourd'hui, vous vous penchez sur les rapports que nous entretenons avec les animaux. Alors, comment la relation humain-animal, débutée il y a plus de 7 millions d'années, a-t-elle évolué? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 2004, à l'occasion de l'exposition intitulée « Au temps des mammouths » au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, vous mettez déjà en exergue le lien fort qui existe entre les mammifères et les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique.
Si nous avons donc une omoplate de mammouth qui a été peinte, on voit que le mammouth a une place très importante et son statut vraiment là aussi apparaît plus dans le domaine du social, du rituel que dans le domaine simplement alimentaire.
Spécialiste de l'homme de Néandertal, vous avez contribué à démonter les préjugés dont il était victime. Vous y avez consacré des livres et vous avez également dirigé une exposition en 2018.
Néandertal, considéré comme un homme singe, très inférieur, cannibale, charognard, qui parlait pas. Bon, bah, tout ça est complètement faux, on le sait maintenant avec les nouvelles découvertes.
Parmi les clichés que vous avez combattus, celui selon lequel la femme préhistorique ne chassait pas, ne peignait pas, ne taillait pas les outils, bref, qu'elle n'était bonne qu'à balayer la grotte et à faire des enfants.
Pourquoi on aurait le droit de dire « ce sont des hommes qui ont taillé les outils et tout » et pas de dire « mais peut-être là, dans certaines sociétés, ce sont des femmes ». Parce que la préhistoire, ça n'existe pas. Ce sont des sociétés préhistoriques.
Dans votre dernier livre, vous déplorez l'éloignement progressif entre les animaux et les humains et vous parcourez les étapes de cette mise à distance. Vous évoquez la réification de l'animal au XVIIe siècle avec Descartes qui souhaitait que nous nous rendions maîtres et possesseurs de la nature. Vous notez que depuis le 19e, les animaux d'élevage sont réduits à de la matière première et vous redoutez l'avènement d'une sixième extinction de masse. Dans les dernières pages, pour enrayer la catastrophe écologique en cours, vous nous invitez à remettre en cause les dualismes de notre histoire récente, nature, culture, sauvage, civilisé, animalité, humanité.
Marie-Hélène Patoumatis, vous êtes spécialiste de Néandertal et vous savez que justement, on a découvert en 2018 en Espagne, dans trois grottes, des représentations de profils de chevaux notamment, donc qui remontent à moins 65 000 ans. Pourquoi ? Qui a eu cette idée de représenter ces profils d'animaux ? Est-ce que c'était par gratitude ? Est-ce que c'était une sacralité ? Est-ce que c'était un pense-bête pour la chasse ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'était pas un pense-bête pour la chasse, en tout cas. Vous savez, c'est l'art paléolithique, c'est 25 000 ans. Donc là, c'est beaucoup de sociétés différentes. Les motivations devaient être différentes. Mais c'est pas forcément un art vraiment pour la chasse. Pourquoi ? Par exemple, à Lascaux, que tout le monde connaît, j'ai étudié les ossements des artistes, de leurs sandwichs. Et en fin de compte, c'est que du renne. Et à Lascaux, vous n'avez quasiment pas de renne. Vous avez les aurochs, les chevaux, etc. Donc vous voyez, c'est plus complexe que ça. Et probablement, ça rentre dans les croyances, dans les mythes. Voilà, je pense qu'il faut voir ça vraiment une relation très symbolique déjà à l'animal. C'est-à-dire que l'animal représente quelque chose, pas seulement de la viande.
Vous évoquez une zoolatrie à l'époque du néolithique.
Oui, quasiment.
On vénère.
Bien sûr, parce qu'en fin de compte, il n'y a que les animaux. Les humains sont très peu représentés, il n'y a pas d'astres.
À part les mains.
Voilà, les mains, et puis quelques silhouettes, mais il n'y a pas d'astres, par exemple, ce qu'on va voir plus tard avec les agriculteurs. Et donc là, c'est vraiment des animaux très variés. Et en plus, avec la grotte Chauvet, on a découvert que aussi il y avait vraiment ces animaux une relation aux prédateurs, parce que là, on a des très beaux lions, voilà, c'est vraiment une grotte très forte. Hein. Et il y a vraiment, dès ces périodes-là, quelque chose de très complexe. C'est pas que l'alimentaire.
Alors, la religion et le christianisme en particulier va bousculer notre approche des animaux qui vont être considérés comme des diables. D'ailleurs, il va même y avoir des procès de porcs.
Pendant toute la période médiévale, on va avoir des bestiaires. Ça va être vraiment la grande période. Et là, dans ces bestiaires, les animaux, ils ont une personnalité. Alors, ils sont bons, ils sont pas bons, ils sont vicieux, etc. Donc, on va avoir toute une catégorie. Et donc, certains animaux vont être en procès. Par exemple, notamment les cochons, absolument, parce qu'ils sont très proches de nous. Mmh. Et donc, ils sont personnifiés. Et donc, ils vont être mis en procès. Ils ont, par exemple, mordu un enfant et tout. On a des textes qui le montrent. Et là, ils sont condamnés tout à fait comme s'ils étaient humains.
Mais dans notre relation à l'animal, Marie-Hélène Patoumatis, vous évoquez donc il y a 8 millions, il y a deux branches, 8 millions d'années, les hominidés d'un côté et puis les grands singes de l'autre. Et puis, le cerveau de ces hominidés qui sont omnivores et qui chassent de la viande des animaux pour se nourrir, le cerveau croît de plus en plus. Est-ce à dire que le végétarisme est une anomalie pour les êtres humains ? car nous avons besoin de protéines animales.
C'est là qu'on constate que, quand même, ce qui marche très bien pour au niveau de l'évolution, c'est l'omnivorisme.
Même l'omnivorisme.
Voilà, on est des omnivores. Et donc, c'est ça qui est important, c'est qu'on est à la fois, on mange de la viande, et à la fois, il faut aussi du végétal. Et ça, très tôt, on s'est aperçu, même chez les Australopithèques, qu'en fin de compte, ils consommaient des végétaux, mais aussi des protéines animales qui étaient sous forme d'insectes, hein, donc au départ. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, il y a une consommation importante de viande, surtout dans l'Europe glaciaire, hein, avec nos néandertaliens et les sapiens. Et là, évidemment, on voit beaucoup dans nos sites des ossements d'animaux de plus en plus. Il y a vraiment cette relation de chasseurs. Mais on peut penser à l'image des chasseurs-cueilleurs qui, maintenant plus beaucoup, qui subsistaient jusqu'à nous, qu'il y a peut-être un rapport avec ces animaux comme un semblable et un frère.
Une chasse éthique, d'une certaine manière.
Une chasse éthique, quelque part, alors sans le savoir, si j'ose dire, mais parce qu'ils sont des hommes de nature, des humains de nature, qui vivent de la nature et grâce à la nature, et grâce notamment aux animaux. Parce que c'est tout l'animal, plein de ressources pour se vêtir, par exemple, pour faire des armes, pour faire des outils. Donc, ils sont vraiment multiples ressources.
Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna la fameuse affaire du classement des nuisibles. Alors maintenant, on les appelle les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ESOD. Il y a des catégories, trois catégories de nuisibles. Et Anna, vous allez nous expliquer que tuer les nuisibles est totalement inefficace selon des chercheurs.
Oui, c'est la conclusion d'une étude qui est parue la semaine dernière dans la revue Biological Conservation. On y apprend qu'éliminer par exemple des renards roux, des fouines ou des corneilles, non seulement ça ne diminue ni la taille de ces populations, mais en plus ça ne diminue pas non plus les dégâts qu'elles occasionnent aux agriculteurs notamment. Pire encore, la traque et la surveillance de ces nuisibles coûteraient 8 fois plus cher que le montant total des dégâts occasionnés par ces animaux. Et le professeur au Muséum d'Histoire Naturelle Frédéric Giguet, qui a piloté cette étude, lui préconise plutôt de trouver des solutions qui soient non létales, comme par exemple des enrobages répulsifs de graines pour repousser les corneilles, ou encore des méthodes d'effarouchement qui permettraient de les faire fuir, ce qui éviterait de tuer inutilement 2 millions d'animaux nuisibles chaque année en France. Est-ce que vous, Marie-Hélène Patoumatis, vous pensez qu'il faudrait retirer ces renards roux de cette liste des nuisibles?
Ah oui, moi je pense qu'alors là vous avez pris l'exemple typique qui est vraiment, qui montre que c'est une erreur. C'est une erreur parce que les renards, ça mange par exemple des rongeurs. Donc il ne faut pas oublier que nous sommes dans un écosystème et on en fait partie. On n'est pas à part, on est dedans. Et si on bouge d'un côté, si j'ose dire,
on déséquilibre.
On déséquilibre, exactement. Et donc en fin de compte, je crois que ce qu'il faut essayer, tenter, c'est de revenir à l'équilibre. Regardez par exemple la réintroduction des castors. C'est une réussite le long des rivières. Donc en fin de compte, je crois qu'on a eu des fausses bonnes idées. On a voulu combattre quelque chose, justement le côté nuisible de certaines espèces, mais on a empiré les choses. C'est comme on enlève tous les prédateurs. C'est vrai, maintenant, dès qu'il y a un prédateur, eh ben, regardez dans quel état sont les chevreuils. Je veux dire, ça pose un problème parce que c'est un tout, c'est un écosystème. Donc, je crois que c'est là où il y a un travail à faire.
Est-ce qu'il faut aller plus loin et réensauvager même les villes? Vous dites que les espaces sauvages ne représentent plus que 23% contre 85% de nos territoires. Est-ce que dans les villes, il faut réintroduire des animaux dits sauvages ou nuisibles?
Oui.
Comme c'est le cas à Londres, par exemple.
Alors, bien sûr, parce que tout le monde va dire, oui, mais regarde, déjà, il y a les sangliers qui reviennent chez nous dans les villes. Non, mais c'est vrai qu'il y a en tout cas une question à se poser, c'est comment on a perdu cette proximité. Quand je dis nous étions si proches, je parle surtout aussi de la distance. Avant, on était près des animaux, on les voyait. Maintenant, on les voit quasiment plus. Et donc, sauf nos animaux familiers. Et c'est plutôt ça. Alors, comment le faire? Ça, c'est compliqué, mais je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Mais je ne crois pas que c'est en éradiquant ou en disant plus de prédateurs que ça va arranger. Au contraire, on déséquilibre encore plus le système. Et dans nos villes, je crois que, d'ailleurs, par exemple, le cimetière du Père Lachaise, c'est un bon exemple.
40 hectares et
voilà.
Beaucoup de familles de renards à Paris. Absolument, 40 hectares de
vie en liberté. Voilà, il y a toute espèce sauvage ou nuisible.
Marie-Hélène Patoumatis, dans votre nom, il y a Patou. Patou, c'est le nom de ces chiens de berger des Pyrénées, pardonnez-moi, mais ça me fait penser immédiatement à ça, qui sont utilisés par les bergers pour tenter d'empêcher les loups de de manger leurs brebis. Est-ce que vous êtes en accord avec cette tentative de trouver une espèce de diplomatie du vivant avec des égards ajustés, comme disait le philosophe Baptiste Morisot? Oui, il faut essayer de ne pas s'en prendre au loup, mais d'essayer de trouver comment rééquilibrer tout ça.
Moi, je crois que c'est important, parce qu'on ne peut pas faire contre les gens non plus. C'est-à-dire qu'on fait partie, on ne va pas dire aux bergers, ben non, soyez plus bergers, parce qu'ils sont très importants, comme les petits éleveurs, je précise bien, les petits éleveurs, c'est très important aussi, parce qu'ils ont un rapport avec leurs animaux, justement, parler des bergers. Hein. Donc je pense qu'il faut trouver
ces égards ajustés.
Oui, c'est ça, de trouver quelque chose qui permette un consensus autour du moins pire pour certains. Mais en tout cas, je pense que c'est très important qu'on ne fasse pas contre, parce que sinon, on n'avancera pas. Ça, c'est juste pour dire quelque chose qui est très grave à mon avis en ce moment, pourquoi cette grande perte de la biodiversité, c'est l'urbanisation. C'est-à-dire que plus ça va, plus que ça soit pour le sauvage ou le domestique, parce qu'on va prendre en ce moment des territoires en Île-de-France, par exemple, pour remplacer l'agriculture par des data centers. Donc, en fin de compte, il y a vraiment cette urbanisation et qui nous éloigne, on revient à ça, qui nous éloigne de ces animaux.
Vous êtes pour zéro artificialisation des sols, on l'a bien compris. Merci Marilène Patou-Matisse. Une osmose entre le vivant humain et non humain. Voilà, nous étions si proches, nous pourrions le redevenir. Il faut lire votre essai chez Alary. Merci infiniment.